le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité.
Cannes déroule le tapis rouge pour son festival. On verra ce qu'il faut attendre de cette 75e édition.
Bipost mesure la pénibilité du travail des facteurs en calculant leur effort physique. On vous emmène pour une tournée.
Mais d'abord, qui est la nouvelle première ministre française et quels sont ses principaux défis?
Nous sommes le mercredi 18 mai. Je m'appelle Sandrine Puissant.
Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Le président français Emmanuel Macron a choisi sa première ministre. Il offre une promotion à celle qui était ministre du Travail, Elisabeth Borne.
L'annonce du reste du nouveau gouvernement va suivre rapidement. Emmanuel Macron a fait le choix d'une technicienne à Matignon. Qui est-elle et quels sont les défis qui l'attendent? Joël Meskens est notre envoyé permanent à Paris. On décrypte avec elle. Bonjour Joël.
Bonjour Sandrine.
Pour commencer, qui est Elisabeth Borne et quel est son parcours?
Elisabeth Borne, c'est une polytechnicienne de formation. Une ingénieure. C'est une femme qui a travaillé dans différents cabinets ministériels de centre-gauche. Elle a travaillé pour des gens comme Lionel Jospin, pour Jack Lang, pour Ségolène Royal. Et elle était surtout plusieurs fois ministre dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle a occupé successivement le ministère des Transports, le ministère de la Transition écologique, le ministère du Travail. Donc elle a gagné ses galons comme ça, comme une technicienne, une personnalité très acharnée. On la décrit comme une bosseuse, une staccanoviste, quelqu'un qui possède très très bien ses dossiers. C'est sur elle donc qu'Emmanuel Macron va s'appuyer, sur sa compétence et sur sa loyauté pour tenter de mener à bien son deuxième quinquennat.
Quelles étaient les cases à cocher pour ce poste de première ministre pour Emmanuel Macron?
D'abord, il fallait que ce soit une femme, parce que ça fait maintenant 31 ans déjà qu'aucune femme n'avait été nommée à Matignon. Donc il fallait absolument, pour ne pas paraître complètement décalée aujourd'hui, nommée une femme. Donc elle cochait cette case-là. C'était aussi une personnalité qui connaissait les dossiers écologiques puisqu'elle avait été ministre de l'écologie. Elle avait une bonne connaissance des relations avec les syndicats puisqu'elle avait été ministre du Travail et qu'elle avait mené plusieurs réformes très difficiles comme celle de l'ouverture à la concurrence de la SNCF ou celle de l'assurance chômage.
Joël, il lui manque quand même un atout, c'est celui du leadership politique.
Oui, c'est une femme qui n'a jamais été élue jusqu'ici. D'ailleurs, pour la première fois, elle briguera, ce qui est assez courageux d'ailleurs, un mandat politique puisqu'elle se présente aux législatives dans le Calvados. C'est un pari assez risqué pour elle parce que la coutume fait que quand on échoue à briguer le suffrage universel, eh bien, on renonce à ses fonctions. Mais elle a besoin de ce mandat politique pour incarner son autorité parce que en tant que première ministre, elle devient la chef de la majorité, donc elle doit contrôler les troupes. C'est elle qui doit avoir l'autorité sur les députés, non seulement sur les députés de la majorité, où il y a des ténors, mais elle devra aussi contrôler les députés de l'opposition, une opposition qui pourrait être très indocile, très pugnace, puisque on s'attend à avoir une forte représentation à l'Assemblée nationale, des élus de gauche rassemblés derrière la nouvelle union prônée par Jean-Luc Mélenchon, et peut-être aussi plusieurs dizaines de députés Rassemblement National qui ne lui feront pas de cadeau. Donc elle doit avoir cette autorité politique pour exercer sa fonction.
Et est-ce que ce n'est pas justement ce qu'Emmanuel Macron cherchait, quelqu'un qui ne lui fasse pas d'ombre?
Il cherchait en même temps quelqu'un qui ne lui fasse pas d'ombre, mais en même temps qui avait cette autorité politique. Donc il n'a pas trouvé quelque part ce fameux mouton à cinq pattes que l'on décrivait depuis plusieurs semaines. Ça aurait été une qualité en plus d'avoir cette finesse politique. Donc ça, c'est vraiment une faiblesse pour Elisabeth Borne.
Elisabeth Borne est plutôt de centre-gauche. Est-ce que c'est un moyen pour le président Emmanuel Macron de contrer Jean-Luc Mélenchon qui tente de créer une alliance à gauche pour les législatives qui arrivent?
Oui, c'est un atout d'avoir une première ministre de centre-gauche. Jusqu'alors, Emmanuel Macron avait choisi deux premiers ministres de droite. Et là, il peut espérer, avec Elisabeth Borne, capter ce qu'il reste de la social-démocratie, c'est-à-dire, il faut dire pas grand-chose, hein, depuis que les socialistes ont fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon dans cette fameuse nouvelle Union populaire. Il peut espérer capter ce petit corps électoral qui ne se reconnaît plus dans cette alliance plus radicale, rééquilibrer d'une certaine façon le mandat qui paraissait pencher trop à droite lors du premier quinquennat. Donc oui, c'est un atout pour Emmanuel Macron d'avoir une personnalité de centre-gauche.
Quels sont les chantiers qui attendent la première ministre ?
Il y a des chantiers très brûlants, dont le premier, c'est le pouvoir d'achat. C'est apparu comme l'une des priorités lors de la campagne présidentielle, avec une inflation galopante et les classes populaires qui souffrent beaucoup. Et donc, il y a une série de mesures qui vont être votées dès cet été et qui seront très significatives. C'est la pérennisation de ristournes sur le prix de l'essence. C'est un chèque donné aux classes populaires pour acheter de l'alimentation bio et locale. C'est la réindexation des pensions, du salaire des fonctionnaires, etc. Donc, ça, c'est le premier chantier, le pouvoir d'achat. L'autre chantier, c'est l'écologie, qui a été définie comme l'une des grandes priorités du nouveau quinquennat. Il faudra mettre en place la planification écologique. Elisabeth Borne aura pour cela deux ministres pour l'aider. Et puis, il y aura le troisième grand chantier qui sera peut-être le plus difficile. C'est celui de la réforme des retraites qui s'annonce explosive avec le passage annoncé de l'âge de départ de 62 à 65 ans, qui est un peu perçu comme un épouvantail par l'ensemble de la gauche, mais aussi par l'extrême droite et par tous les syndicats confondus.
À quoi ça sert de refaire un gouvernement aujourd'hui alors qu'il y a des élections législatives qui sont prévues dans à peine un mois ?
Alors ça sert surtout à donner un élan justement avant ces élections législatives. Emmanuel Macron aurait très bien pu laisser les choses en l'état, mais il fallait quand même montrer que ça bouge, donner des priorités, alimenter une sorte de storytelling, montrer ce qu'on allait faire, afficher une certaine volonté de changement, etc. C'est pour ça que c'était nécessaire de créer une nouvelle équipe. On verra maintenant si cette équipe sera provisoire ou si elle sera amenée à durer. Une fois que les élections législatives auront eu lieu, soit on gardera ce gouvernement et on l'étoffera avec quelques postes de secrétaire d'État en plus, soit on le remaniera une nouvelle fois, peut-être pour faire rentrer des personnalités nouvelles, plus fortes qui seront apparues dans les élections, ou peut-être pour évincer des personnes qui n'auraient pas franchi justement l'épreuve du scrutin, qui n'auraient pas réussi à se faire élire aux élections législatives.
Merci Joël.
Merci Sandrine, à bientôt.
Le Festival de Cannes a sorti Les Strass et les Paillettes hier soir. 21 films sont en lice pour la Palme d'Or.
Il y a plusieurs Belges, les frères Dardenne notamment, habitués du festival avec leurs films Tori et Lokita, trois films flamands aussi, Klaus de Lucas Daunt, Les Huit Montagnes de Charlotte van der Meer chez Félix van Groeningen et Rebelle d'Adil El Arbi et Bilal Fallah qui sera présenté en séance de minuit. Fabienne Bradfer est notre envoyée spéciale à Cannes. On lui a demandé ce qu'il faut attendre de cette édition et si cette présence belge veut dire que notre cinéma va bien.
Je pense, comme le dit Dirk Impens, qui est un producteur majeur en Flandre, que c'est d'abord et avant tout le fait de talents exceptionnels. Des cinéastes qui ont un univers très personnel et qui parviennent à le rendre universel. Bien sûr, derrière ces talents, il y a le soutien des institutions, comme le Centre du cinéma pour la partie francophone. Pour la partie flamande, c'est le VAF, donc le Fonds audiovisuel de Flandre, et ils ont changé leur politique. Dorénavant, ils ont une exigence beaucoup plus importante pour la qualité des films. C'est step by step, comme on dit. On doit proposer le projet pour le scénario, pour la production, pour les différentes étapes de fabrication de films. On ne passe pas au guichet une fois, il faut revenir à chaque fois avec un dossier solide. Ça porte ses fruits. Mais c'est avant tout des individualité avec un talent exceptionnel.
L'acteur Tom Cruise est présent sur la croisette cette année. Est-ce que c'est un événement ?
Oui, c'est un événement. C'est un événement majeur parce que Tom Cruise n'est venu qu'une seule fois à Cannes en 1992 pour présenter Horizon lointain de Ron Howard. Il revient avec la suite d'un film culte, Top Gun. Ça fait 36 ans. Est-ce que Tom Cruise a changé ? Est-ce qu'il a vieilli ? Est-ce qu'il a des rides et tout ça ? Ben non, apparemment, le temps temps n'a pas d'emprise sur lui. Tom Cruise est vraiment l'incarnation de la star absolue. Il rapporte gros, il cumule les films à succès, malgré certains revers commerciaux. 40 ans de carrière, c'est des blockbusters, c'est la franchise Mission Impossible. On attend le 7e pour 2023 et le 8e pour 2024. Tom Cruise est toujours en forme et il fait toujours ses cascades lui-même.
Alors cette année, le président du jury, c'est l'acteur Vincent Lindon. Quelle sera son empreinte sur cette édition du Festival de Cannes ?
Vincent Lindon, comme président du jury, ça me plaît beaucoup parce que c'est un esprit libre. C'est aussi très fortement un acteur engagé. On peut citer des films comme La Crise, Ma Petite Entreprise, Welcome ou encore la trilogie sur le monde du travail de Stéphane Brisé. C'est un cinéphile aussi. C'est quelqu'un qui va prendre le job très au sérieux. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne va pas imposer sa loi, qui sera à l'écoute, qui va favoriser le débat. Et je suis pratiquement certaine, enfin j'espère, parce qu'il doit composer aussi avec les membres du jury, mais que ça sera un palmarès qui ne sera pas tiède. Et il a déclaré au Journal du Dimanche que lui, ce qu'il voulait, c'était primer des films qui offrent une nouveauté artistique et qui font venir les gens dans la salle. Il est partant pour des projets totalement originaux.
L'effort physique demandé à un facteur qui fait sa tournée est-il plus important aujourd'hui qu'il y a quelques années ?
Plus de colis et moins de lettres, le métier change et la pénibilité aussi. Bipost mène une étude avec Luce et Louvain pour mesurer l'intensité physique d'une tournée. Certains facteurs portent différents capteurs et un gros masque. Nous sommes allés au centre de distribution de Mont-Saint-Guibert pour accompagner Renaud sur le début de sa tournée. Avant de partir, Renaud récupère le courrier, les colis qu'il doit distribuer et les charge dans sa camionnette. Il ne porte pas encore le masque, mais déjà sous son polo deux capteurs. C'est Clément Pirson, assistant-chercheur à Luce et Louvain, qui nous explique.
Ce petit appareil, c'est un accéléromètre. Ça permet essentiellement de mesurer les déplacements. Ici, vous avez le cardiofréquencemètre qui permet de mesurer la fréquence cardiaque du candidat.
Et si Bipost mène cette étude maintenant, c'est à cause de l'évolution du métier. Laura Serra da Crespo, porte-parole.
Le métier de facteur est en train de changer, donc on a moins de lettres, on a beaucoup plus de colis. L'objectif, c'est clairement de voir quelle est la charge physique qui pèse sur eux, puisqu'il y a beaucoup plus de colis, donc forcément des charges plus lourdes à prendre et à porter, et quelle est la charge mentale par rapport aux tournées et à l'organisation de celle-ci.
La réalité du terrain d'aujourd'hui, ce sont parfois des colis inattendus. En chargeant sa camionnette, Renaud raconte.
Pour l'instant, le poids des colis ne cesse pas d'augmenter. On peut aller du tout petit colis jusqu'au trampoline parfois, sans rigoler. Donc c'est vraiment des colis qui deviennent vraiment très très lourds pour le dos et pour chaque facteur. C'est vraiment le dos qui en prend le plus, un petit peu les genoux forcément, vu que on marche quand même toute la journée. C'est monter, descendre énormément de fois de la camionnette. Les hanches aussi, vu que voilà, il y a quand même un certain rythme à tenir. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps non plus d'avoir la manutention la plus propre possible. Donc c'est vrai qu'avec le nombre de boîtes qui augmente, le poids des colis qui augmente, la charge de travail entre guillemets qui reste toujours de plus en plus lourde, vu qu'il faut une rentabilité aussi. C'est vrai que pour le physique de l'agent, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, je pense.
D'ailleurs, il est temps de commencer cette tournée. Clément de Luce et Louvain équipe Renaud d'un gros masque en plastique, assez épais, du type équipement de plongeur. Il est relié à un téléphone qui enregistre toutes les données. L'objectif, évaluer la consommation d'oxygène. Clément Pirson.
Nous l'évaluons à l'aide d'un masque, justement, où le participant respire dedans. Ça nous permet en fait de savoir la ventilation en termes de litres par minute. C'est également la consommation d'oxygène qui en fait nous permet d'évaluer l'intensité à laquelle le participant se trouve lors de son travail.
Sur sa tournée, Renaud doit garder le masque pendant 3 fois 20 minutes et heureusement que ce n'est pas plus long.
Ça fait beaucoup de condensation à l'intérieur aussi. Du coup, là c'est un peu gênant, mais c'est que 20 minutes donc ça va.
Le test est proposé sur base bénévole. En fonction des résultats, il pourrait déboucher sur l'adoption de mesures particulières.
Bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
On vous emmène au nord du nord avec un roman d'aventure, un roman d'amour aussi. C'est l'histoire d'une femme qui se plonge dans son passé familial et qui se redécouvre, un récit de survie dans le froid. C'est Cédric Petit du service culture qui nous en parle.
C'est une histoire familiale qui se passe sur deux époques, en 1897 et en 2007, donc 120 ans plus tard, d'un côté dans le Minnesota et dans l'autre en Norvège. Donc, l'histoire démarre en Norvège, à la fin du 19e siècle, avec un personnage clé qui est un homme pauvre, qui porte un nom norvégien imprononçable, dans un petit port de pêche qui en fait refait surface après avoir disparu pendant des semaines, après avoir été attaqué par un ours blanc et qui est tenu pour mort. Donc tenu pour mort, il revient dans son village, il commence à retisser les fils, pas seulement les fils de son histoire, mais les fils de son amour pour son épouse, qui avait déjà fait son deuil de lui, puis aussi les fils quand même de son récit de survie avec un journaliste. Et donc l'histoire atterrit 120 ans plus tard, son arrière-petite-fille Greta, vivant dans le Minnesota, profite de l'absence de son mari pour aller retrouver ses ancêtres dans le même village du petit port de pêche en Norvège. Et là, elle fait la rencontre d'un Norvégien qui lui redonne le goût de l'amour, notamment, et de la vie en général. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que l'histoire n'est pas celle de la survie du personnage dans les glaciers. Le récit de cette survie se fait au fur et à mesure, entrelacé dans le récit de l'après et la manière dont l'épisode a bouleversé l'existence d'un homme pauvre qui, lui, découvre qu'il peut s'extraire de sa condition grâce à l'histoire qu'il a vécue. Et puis, 120 ans plus tard, comment celle-ci a conditionné plusieurs générations de membres de sa famille exilés au Minnesota et qui ignoraient jusque-là qu'ils avaient un ancêtre qui est en fait une figure presque devenue mythologique, une sorte de grand héros populaire norvégien. Le récit de la survie en lui-même est palpitant et puis tout le reste est très très intéressant aussi. Comment on retrouve ses racines, comment on se construit sans connaître ses racines et comment on se construit parfois mal aussi en connaissant pas ses racines et comment le fait de les retrouver permet d'envisager autrement son existence. L'ambiance du livre, c'est l'hiver, le froid, les glaciers, la Norvège. Ça s'appelle Au nord du Nord, c'est paru chez Rivage. C'est un gros livre de 455 pages. C'est écrit par Peter Gay.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
À demain.